Dans un raclement de moteur cancéreux et sous un petit tonnerre d'applaudissements, le LET L410 Turbolet de Summit Air stoppa sa course en bout de piste. Au travers d'une brume épaisse où l'on confondait nuages et fumée de la carlingue épuisée, les 18 passagers descendirent un à un la petite échelle branlante qui les déposa sur le tarmac, le visage blême et soulagé de retrouver l'asphalte. Alex se détailla, circonspecte, le crachat noir laissé en traîne par la turbine, dont l'usure avait rongé la tôle jusqu'à en enlever des bouts. Elle commenta à son père. « J'ai toujours trouvé ça flippant d'applaudir des mecs qui font leur job, mais quand on voit l'état de leur monture, ça relève du miracle d'atterrir ici. Vivant, je veux dire. »
Tu l'as dit. Cette piste est l'une des plus courtes au monde. Entre les soucis mécaniques de ces avions de 40 ans d'âge, le relief accidenté et la météo, il y a régulièrement des crashs.
Alex haussa les sourcils. « Et ça, bien sûr, tu me l'as pas dit avant qu'on monte dans ce vieux tas de ferraille. »«
Pourquoi faire ?» sourit Jeff.
Dans la file d'attente pour récupérer leur sac dans la soute, la jeune femme de 25 ans observa les alentours. Le petit aéroport de Tenzing Hillary était lové contre un gigantesque mur montagneux, et au bout de la piste d'atterrissage, une chute abrupte débouchait sur une vallée verdoyante. La végétation luxuriante contredisait la période de mousson encore à venir, et les rayons du soleil noyé affleuraient des neiges éternelles qui s'en foutaient royales. Déjà, un autre avion amorçait sa descente, petite coque de noix mobile ballottée dans ce paysage à trop grande échelle. Le ballet dense du trafic aérien pouvant parfois s'interrompre pendant plus d'une semaine à cause des tempêtes, la météo plutôt clémente ce jour-là permettait l'arrivée en rafale de touristes dans la petite ville de Lukla, ce terminus unique au monde perdu dans les montagnes de l'Himalaya. Alex et Jeff pénétrèrent dans le hall d'arrivée, dont le toit de tôle ondulé, bardé de panneaux solaires, menaçait de s'effondrer sous la charge. Une vive agitation animait le lieu, et Alex sentit l'excitation monter dans sa poitrine, et l'envie de soulager sa vessie qui va avec. Elle abandonna son gros sac à dos aux pieds de son père et se mit en quête des toilettes. Sur le chemin, elle passa devant des boutiques qui proposaient du matériel d'alpinisme ainsi que des vêtements chauds. Des petits drapeaux étaient accrochés ou cousus sur les sacs à dos des touristes qu'elle croisait. Canada, Australie, Corée du Sud, Russie, Argentine, États-Unis, Pologne. L'aéroport de Lukla brassait le monde entier. Et la cacophonie polyglotte ambiante confirmait l'impression. Lorsqu'elle retrouva son père quelques minutes plus tard, un mouvement de foule attira leur attention. Des groupes se formaient autour d'hommes portant des pancartes à bout de bras. Ils haranguaient les touristes comme l'avaient fait les chauffeurs de taxi à Katmandou un peu plus tôt, criant le nom de leurs agences d'expédition respectives dans un joyeux brouhaha. Des Sherpas. Alex se mit à détailler avec curiosité ces travailleurs d'altitude dont le nom résonnait à ses oreilles depuis l'enfance avec autant de force qu'Apache ou pirate. Avec classe et légende. L'homme qui tenait la pancarte de leur agence, Himalayan Walk Agency, avait la petite quarantaine, des cheveux drus en bataille, deux yeux noirs comme du charbon et la gueule froissée d'un lendemain de cuite. Ils échangèrent des poignées de main. Alex ne fut pas étonné de voir la sienne disparaître littéralement dans les battoirs du Sherpa qui mesurait presque 2 mètres. En revanche, elle ne s'attendait pas à ce qu'il y manque 2 doigts.
« Je suis Moinder Sherpa. C'est moi qui suis chargé de vous mener vivant jusqu'au camp de base. Ensuite, je ne réponds plus de rien. »
Quelques rires s'étouffèrent rapidement face au regard aigre-doux du colosse. Alex croisa celui de Jeff qui haussa les épaules. Simple formule de bienvenue. 4 autres clients complétaient l'équipée. Alex apprit leurs noms en même temps que Moinder les vérifiait sur sa liste. Vassili de Russie, Mallory, un népalo-anglais résidant à Londres, Meili du Canada et Paola d'Italie. Moinder leur fit signe de se frayer un chemin parmi la petite foule pour le suivre à l'extérieur. Il les mena jusqu'à un groupe de yaks nonchalants montés par des gamins de 10 ou 12 ans qui, à leur vue, descendirent d'un bond de leur monture pour les soulager de leurs sacs et ficeler leurs affaires sur les bêtes. Le Sherpa distribua à chacun un petit bout de papier issu d'un carnet de tickets.
« Ce sont vos permis pour traverser le parc naturel de Sagarmatha », leur indiqua-t-il. « Mettez-les avec votre permis d'ascension. N'importe qui, à partir de maintenant, peut vous les demander. Si vous ne les présentez pas... Le montant de l'amende sera indexé sur le seuil de pauvreté de l'agent de contrôle qui se trouvera en face de vous. Et autant vous dire que dans le coin, ça ne vole pas haut. »
Alex rangea soigneusement le papier dans la poche intérieure de sa parka, puis remonta la fermeture étanche jusqu'à son menton. Le froid était vif malgré les quelques rayons de soleil qui tentaient une percée au travers la mer de nuages qui s'amoncelait au-dessus de leur tête. Le plus jeune des Yakmen confia à Alex que la bête qui allait porter ses affaires se nommait Bahamas.
Comme ça, quand je l'appelle, j'ai l'impression de voyager,
précisa-t-il en riant. Alex sourit en notant que c'était le plus petit des porteurs qui avait le plus grand des yaks.
Et toi, comment tu t'appelles ?
Pour toi, ce sera Chicago,
répondit le garçon, l'air espiègle.
Ok, Chicago. Ravi de t'avoir pour guide, conclut Alex, scellant leur rencontre d'un clin d'œil complice.
Au signal de Moinder, l'équipe se mit en route sans plus de cérémonie, caravane arpentant la route goudronnée qui, rapidement, se transforma en route de terre puis en sentier escarpé qui s'enfonçait, serpent dans la vallée encaissée. Le Sherpa, en tête, discutait avec le Russe, Vassili. Entre géants, ils doivent s'entendre, pensa Alex qui cheminait entre Jeff et Paola. Derrière venait Mallory, et enfin Meili qui fermait la marche, s'arrêtant ici et là pour prendre des photos du panorama sur son smartphone.